Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Sa Jazz à Lyon. Je reçois ce matin Denis Bretin, secrétaire général de l'Auditorium de Lyon. Denis Bretin, bonjour.
Bonjour.
Mercredi, l'Auditorium accueillait un géant du jazz dans des conditions qui étaient un peu particulières. L'artiste israélien Avishai Cohen se produisait quelques jours après les attentats de Paris. Ça a été une décision compliquée à prendre de maintenir ce concert ?
Non, c'était même... On avait décidé d'ailleurs initialement de maintenir un premier concert le lendemain des attentats.
Oui.
On souhaitait être un concert hommage avec même des musiciens de l'Opéra de Lyon qui se seraient joints à nous. Finalement, bon, voilà, les décisions politiques et puis aussi la décision de s'associer au deuil national nous ont éloignés de ce premier projet. Donc le retour d'Avishai Cohen avec les musiciens de l'Orchestre National de Lyon, puisqu'on était dans un dispositif assez particulier, le trio d'Avishai plus les musiciens de l'orchestre,
oui,
était au contraire attendu comme un retour à la vie de la maison. Et le résultat d'ailleurs a été tout à fait à la hauteur de nos attentes. Le public a été très très nombreux. On avait une très belle salle sur ce concert. On avait un peu peur, évidemment, comme tout le monde, d'une série d'annulations, que les gens ne viennent pas. Et en fait, pas du tout. Même les jeunes lycéens qui devaient venir en groupe, ces sorties organisées avaient été supprimées. Mmh. Et à titre individuel, ils étaient tous présents dans la salle. Donc, on a eu 5 rappels, des standing ovations. Et le programme d'Avishai Cohen s'est trouvé, j'ai envie de dire, en un sens, assez à la lumière de ce qu'on souhaiterait. C'était un concert de réconciliation, de partage. Il y avait une émotion, bien évidemment, très forte dans la salle, on le sentait.
Mm-hmm.
Mais aussi un désir de musique et de retour à la vie très, très important.
Si on s'intéresse encore un peu au jazz, la prochaine étape, c'est déjà le 14 décembre. La région Auvergne-Rhône-Alpes aura un nouveau président. Et Louis Clavis, eh bien, lui, il aura carte blanche à l'Auditorium. Quand on donne carte blanche à un artiste, c'est qu'on est sûr que sa performance sera inspiré.
Oui, Louis Clavis, on prend peu de risques. Hein. C'est quand même une des très grandes pointures du jazz français. C'est les 40 ans de carrière de Louis Clavis. C'est assez amusant parce qu'en fait, l'Auditorium de Lyon, le bâtiment, a 40 ans également. Donc, j'ai envie de dire, c'est un anniversaire conjoint. Il a invité Portal avec lui. Donc, c'était déjà un beau début de carte blanche. Il va s'inscrire dans la ligne du dernier album qu'il a fait sur la route de la soie avec le Silk Quartet. Donc c'est un album aussi, j'ai envie de dire, un peu transfrontalier. La question des frontières se pose aussi bien politiquement qu'artistiquement,
oui,
et c'est assez bien de voir que les artistes, j'ai envie de dire, sont toujours un peu en avance sur les politiques, puisqu'on va avoir un percussionniste dans le groupe de Louis, qui est un percussionniste iranien, et donc les rythmes persans vont être très présents dans cet album, et c'est une sorte de grand voyage de gens ouverts à des cultures autres, différentes, et qui savent s'accepter et se respecter mutuellement, ce qui est, voilà, évidemment, ce à quoi on aimerait tendre dans un contexte social et politique.
Quelques jours avant, le 10 décembre, vous allez exposer des photos qui ont été prises par
Louis. Oui, parce que Louis a des tas de talents, et entre autres, il a celui de photographe.
Ouais.
C'est un très bon photographe, et il a une exposition qu'il a montée, des photos qui retracent en fait une perception intime des grands concerts qu'il a pu donner aux quatre coins du monde. Et c'est assez drôle de voir des sujets à la fois sociaux, puisqu'il va prendre un gamin qu'il a croisé, j'ai envie de dire, à Bénarès, aussi un grand musicien qu'on voit de dos au petit matin sur une scène avant que le public n'entre. Donc une exposition qui est à la fois très poétique et très tournée vers le monde. Il y a quelque chose d'un humaniste, je trouve, chez Louis Clavis. Il le porte sur son visage, c'est quelqu'un de très doux et en même temps quelqu'un d'aventureux qui est ouvert à des tas d'expériences avec des paysages musicaux très divers.
En 2016, on pourra retrouver d'autres artistes jazz, hein, comme Salif Keita par exemple. Qu'on rassure ceux qui osent ne pas aimer le jazz, l'Auditorium propose une large palette d'événements, de concerts différents. Pour cette saison, on retrouve deux mots qui reviennent, le Japon et Shakespeare. Pourquoi ces choix ?
Pourquoi le Japon et pourquoi Shakespeare ? Alors Shakespeare, c'est parce que, pour des raisons, j'ai envie de dire, presque culturelles dans cet auditorium, puisque le conseiller musical, le nouveau conseiller musical de l'auditorium, Christian Thompson, comme son nom l'indique, a été bercé et nourri au lait shakespearien. On sait la place que le grand dramaturge occupe dans la culture anglaise. Leonard Satkin, par ailleurs, est américain, donc il y avait déjà une proximité de langue. Quand on se donne une contrainte comme celle-ci, puisque c'est une contrainte, c'est un fil rouge, ça vous amène en fait à aller explorer peut-être des endroits du répertoire que vous n'auriez pas cherché naturellement. Vous allez retrouver, il y a toute une littérature musicale autour de Shakespeare très importante, les Walton, des musiciens qu'on joue pas forcément, et ça nous a donné en fait des colorations particulières, des opportunités aussi d'inviter des gens de théâtre sur le plateau de l'auditorium. On a fait ça il y a de ça une quinzaine de jours, dans un songe d'une nuit d'été qui était en durée. Vous aviez à peu près une heure de théâtre pour 35 minutes de musique, c'est-à-dire que l'orchestre était présent sur le plateau et des comédiens anglais sont venus et ont joué parmi les musiciens la pièce de Shakespeare, dans le texte, avec évidemment un surtitrage. Et le public de l'auditorium a été, mais aux anges. Ça a été des soirées formidables. Tout d'un coup, des gens qui ne vont pas forcément au théâtre se sont dit, mais c'est quand même génial, des projets comme ça. À nouveau, vous voyez, des projets qui articulent des mondes et des disciplines qui apparemment pourraient être un peu éloignées.
Et concernant le Japon ?
Concernant le Japon, il faut savoir que l'Orchestre National de Lyon, s'il est très implanté à Lyon, il a une histoire séculaire dans cette ville, c'est un des plus vieux orchestres symphoniques de France, l'Orchestre National de Lyon, et aussi un orchestre qui a une intense activité internationale, et les tournées de l'ONL, qui en font évidemment un ambassadeur, je trouve plutôt intéressant de la ville, se déroulent au Japon, mais également aux États-Unis, en Europe. Il se trouve que là, on a une tournée qui est prévue à Tokyo, et dans cette autre ville du Japon très prochainement. On va jouer au Suntory Hall, qui est la salle la plus prestigieuse, évidemment, de Tokyo. Donc voilà, on a voulu le signifier. Ce qui nous semble important dans la politique qu'on mène aujourd'hui avec Jean-Marc Bador, mais aussi bien avec des partenaires comme Jazz à Vienne, vous voyez, sur des horizons très larges qui sont explorés avec Stéphane Kojoyan, c'est de montrer que voilà, ce qui est important, c'est d'avoir un ancrage local très fort, parce que c'est un orchestre qui est né à Lyon, qui reçoit un public évidemment majoritairement lyonnais et de la grande région et de la métropole, mais également un orchestre qui a une telle qualité qui peut se présenter à New York. Il a un chef américain, Leonard Satkin. Il accueille les plus grands solistes internationaux, qu'ils soient russes comme Lugansky prochainement, comme voilà, des jazzmen comme Avishai Cohen, comme Winston Marsalis, des gens qui viennent des griots maliens comme Saïf Keïta. Et c'est ça qui nous semble important, c'est d'affirmer à la fois un ancrage local très fort et en même temps une ouverture d'esprit et des ambitions artistiques qui sont internationales.
L'une des priorités de votre directeur général Jean-Marc Bador, ce sont les Happy Days, hein, une façon de s'ouvrir sur la ville. C'est important de poursuivre dans cette démarche ?
Quand bien même on trouverait que ça ne serait pas une bonne idée, ce qui serait faux, c'est un incontournable. Ce n'est pas possible de ne pas songer à former les générations à venir. Donc il faut absolument se tourner vers le jeune public. Il faut réussir à expliquer que ces programmes symphoniques sont ouverts absolument à tous. Et c'est vrai, il n'y a rien. C'est un langage, je veux dire, vous n'avez pas le même problème qu'avec les langues étrangères. Vous n'avez pas de problème de compréhension, j'ai envie de dire, spontanée. Que vous ayez 4 ans, que vous ayez 90, vous pouvez écouter la 5e de Beethoven. Et ce qui est important, c'est de réussir à montrer que voilà, c'est une maison. Le projet de Jean-Marc, c'est la maison de la musique sur toute une partie de notre activité. On a des activités pédagogiques nombreuses, des ateliers d'initiation, des concerts jeunes publics. On attaque dès la maternelle, hein, quand même, maintenant, à l'auditorium, avec des conteurs, avec des musiciens, et toujours à un très haut niveau artistique. Là, on ne veut pas faire de concessions. C'est-à-dire qu'on veut s'ouvrir à un public le plus large possible, mais en offrant, par contre, une prestation artistique à la hauteur d'un orchestre de dimension internationale.
Et ça a des conséquences positives directes sur la fréquentation. On voit que, par exemple, 8% l'année dernière, 8% des nouveaux abonnés n'étaient jamais venus à l'auditorium.
Oui, parce qu'il y a des gens qui, tout d'un coup, se voient sollicités par des programmes en disant « Ah bon, alors si c'est pour les familles, on va pouvoir venir pour un Happy Days, on va, voilà, il y a un brunch musical, vous avez des jeux de piste organisés sur le quartier de la Part-Dieu, vous avez évidemment les grands concerts symphoniques qui sont un peu les points de repère, les jalons. » Mais vous pouvez passer toute la journée à l'auditorium en allant voilà, d'une conférence à un atelier, vous venez avec des enfants, vous buvez un jus d'orange et vous écoutez une symphonie de Mahler. Et c'est ça en fait, on ne veut pas cloisonner les choses. Le rituel est important, Parce que quand vous avez 100 musiciens sur un plateau, vous voyez, c'est quand même pas une chose anodine. Ouais. Mais par ailleurs, c'est vraiment fait pour tout le monde. Et il suffit de rentrer dans la salle pour s'en rendre compte. Et le public nous suit, donc on est content.
Et puis Denis Bretin, l'Auditorium de Lyon, comme la plupart des lieux culturels à Lyon, subit de plein fouet la baisse des dotations de l'État. Hein. Les subventions ont été gelées par la ville cette année.
Mais c'est pas une baisse.
C'est qu'un mauvais quart d'heure à passer, ou vous craignez une dégradation permanente, progressive?
Ouais, il y aurait eu peu de raisons, j'ai envie de dire, pour que la culture n'apporte pas son écho aux mesures générales. On sait que ce pays connaît une crise économique forte, vous le savez comme moi. La ville de Lyon a toujours été, en matière de culture, vraiment très généreuse. C'est 20% quand même du budget global de la ville qui est investi dans les structures culturelles.
Le premier adjoint à la culture.
Voilà, Georges Kepenekian, qui est très actif. Il y a vraiment un service des affaires culturelles dynamique et qui nous soutient pleinement. Maintenant, on est une structure importante de la ville. On est en train de s'ouvrir à des formes de financement aussi plus diverses. On s'ouvre au mécénat. Ça nous contraint aussi, évidemment, à avoir une politique de gestion peut-être plus acérée et plus fine encore. On était déjà très, très vigilants, mais là, on devient vraiment extrêmement vigilants. Donc oui, évidemment, c'est problématique. C'est problématique, mais on fera l'effort nécessaire pour parvenir aux résultats souhaités.
Merci Denis Bretin.
Mais je vous en prie.
Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmac.com.